Chapitre 11. Tricia. Aujourd'hui. Au bout d'environ 40 minutes d'écoute, je me rends compte que j'y suis depuis trop longtemps. Comme moi, Ethan est notoirement lent dans la salle de bain, mais même lui doit avoir fini de se doucher et de s'habiller à l'heure qu'il est. D'une minute à l'autre, il va descendre à ma recherche. J'ai perdu la notion du temps. La voix du docteur Adrienne Hale avait quelque chose d'hypnotique et de puissant à la fois, lorsqu'elle conseillait la jeune patiente présentée dans « L'anatomie de la peur », dont les amis et le fiancé ont été assassinés par un fou dans un chalet au milieu des bois. Lorsqu'elle lui dit « Vous allez guérir », c'est comme si c'était la voix de Dieu lui-même qui l'affirmait. Pas étonnant qu'elle ait été si respectée en tant que psychiatre. Pas étonnant non plus que tant de personnes aux prises avec des traumatismes majeurs l'aient consultée. Sans surprise, des bruits se font entendre dans l'escalier, de plus en plus forts. J'éjecte rapidement la cassette et la remets dans le boîtier, que je glisse dans l'un des tiroirs du bureau, quelques secondes avant qu'Ethan ne passe la tête par la porte. « Ah, tu es là !» Je force un sourire. « Je suis là !» Il penche la tête sur le côté.
« Tu n'étais pas en train de fouiner dans les tiroirs de son bureau, hein, Tricia ?»«
Non, pas du tout !» Je réponds en toute sincérité. Je me hâte de le rejoindre hors du bureau avant qu'il ne cherche à comprendre ce que je faisais. Il se tient dans le couloir, les cheveux encore humides de la douche. Je remarque immédiatement qu'il ne porte plus la chemise et le pantalon fluide qu'il avait lorsque nous avons quitté l'appartement. Il a enfilé un jean retroussé aux chevilles et un t-shirt des Yankees. « D'où viennent ces vêtements ?» Je lui demande. Ethan tire sur le col du maillot des Yankees.
« Oh, je les ai trouvés dans un des tiroirs de la chambre. J'ai accroché ma chemise et mon pantalon. Je les renfilerai demain matin. »
Ce t-shirt et ce jean n'appartenaient pas à Adrienne Hale. Ils sont trop grands pour Ethan et donc beaucoup trop grands pour la psychiatre, qui était assez petite. Pourtant, ils étaient dans un de ses tiroirs. Je suppose donc qu'ils appartenaient à son petit ami, Luke.
« Tu pourrais aussi te changer avant d'aller te coucher, »
suggère-t-il.
« Il y a des tonnes de tenues de nuit dans les autres tiroirs. »
Qu'est-ce qui est le plus grave ? Porter les vêtements d'une morte ou porter les vêtements de l'homme qui l'a tuée ? Non, ça va. Je dormirai en soutien-gorge et en culotte.
Comme tu veux. Tu as envie de monter maintenant ?
Je regarde ma montre. Il se fait tard, et avec la neige qui continue de tomber fort, nous n'avons guère d'autre choix que de passer la nuit ici. La perspective m'effraie plus que je ne l'aurais cru, mais nous y sommes bien obligés. Je peux le faire. Très bien, je réponds. Montons à l'étage. Accroché à la rampe, je suis Ethan jusqu'au premier étage, comme s'il me conduisait à mon exécution. Il fait si noir par la fenêtre que même avec les lumières allumées, la cage d'escalier et les couloirs restent sombres. Si quelqu'un changeait toutes les ampoules, le niveau de luminosité serait probablement plus confortable. Mais nous n'allons pas faire ça maintenant. Nous avons déjà de la chance qu'il y ait de la lumière. Je continue à suivre Ethan dans le couloir, avant de m'arrêter net lorsqu'il me conduit à la chambre principale. « Qu'est-ce que tu fais ?» Il se retourne, les sourcils froncés.
« Quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ?»«
Pas question que je dorme dans cette chambre !»«
Pourquoi pas ?»«
Parce que c'est là que dormait la psychiatre morte !» Ses épaules s'affaissent.
« Tricia, arrête de faire l'idiote. La chambre principale est de loin la plus grande. C'est là que nous dormirons quand nous vivrons ici. »
« Oui, il faudra d'abord me passer sur le corps. »«
Et puis, » ajoute-t-il, « c'est le seul lit qui soit fait. Je ne sais même pas où elle rangeait les draps et tout ça. Et puis je n'ai pas envie de chercher. Je suis fatiguée, j'ai envie de dormir. »«
Tu n'es pas fatiguée ?» Une vague d'épuisement déferle sur moi sans crier gare. Ça m'arrive de plus en plus souvent ces derniers temps. Le soir, je me sens soudain presque submergée par la fatigue. Je suppose que c'est lié au fait que mon corps fabrique une autre personne. Quoi qu'il en soit, je suis d'accord. Je n'ai pas envie de fouiller dans une armoire à linge et de faire un lit. Très bien, je concède donc. On peut dormir dans la chambre principale. Une fois à l'intérieur, la première chose que je fais est d'essayer de fermer la porte à clé. Après la mystérieuse lumière que j'ai vue briller à l'étage, je ne me pense pas capable de dormir sans m'enfermer à l'intérieur. Malheureusement, ce n'est pas si simple.
Qu'est-ce que tu fais ?
Demande Ethan depuis le lit. Il a enlevé son blue jean, mais il porte toujours son t-shirt des Yankees. « Je veux fermer la porte à clé. »«
Je ne pense pas qu'elle se ferme à clé. »« Je tourne brusquement la tête pour lui jeter un regard noir. Quel genre de chambre n'a pas de serrure sur la porte ? Je ne sais pas, Tricia, lâche-t-il, une note d'exaspération dans la voix. On est au milieu de nulle part et elle vivait seule. Pourquoi aurait-elle eu besoin d'une serrure à la porte de sa chambre alors qu'il y en a déjà une sur la porte d'entrée ? Parce qu'il aurait pu y avoir quelqu'un dans sa maison et qu'elle devait l'empêcher d'entrer pendant qu'elle appelait à l'aide ? En parlant d'appeler à l'aide, je n'ai pas vu un seul téléphone fixe dans toute la maison. De nos jours, la plupart des gens utilisent des téléphones portables, mais étant donné la très mauvaise qualité du réseau ici, il semble raisonnable qu'elle ait eu une ligne fixe, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. Pourtant, je n'en ai pas vu. Je m'écarte à reculons de la porte, trop nerveuse pour la quitter des yeux. Comment est-ce qu'on va partir d'ici demain ? Ethan s'installe plus confortablement dans le lit. J'espère qu'une fois la tempête passée, le réseau de notre téléphone portable sera rétabli. Et si ce n'est pas le cas ? Quelqu'un nous trouvera bientôt. Judy sait qu'on est ici. Si ça se trouve, elle est en train d'essayer de nous contacter en ce moment même. Et bien sûr, ta mère viendra voir où on est si elle n'a pas de nouvelles de vous dans les 24 heures.
Ce n'est pas vrai.
Il tapote le côté vide du lit.
Oh allez, tu sais bien que si, Tricia. Ta famille t'aime, il n'y a rien de mal à ça.
Heureusement, Ethan n'a jamais été jaloux de ma relation avec mes parents et ma sœur. Nous sommes assez proches et je parle à ma mère pratiquement tous les jours. La mère et le père d'Ethan sont morts avant que nous sortions ensemble. Dans un accident, quelque chose comme ça. Mais ils n'aiment pas en parler. Ils se referment comme une huître à la moindre évocation du sujet. Lors de notre tout petit mariage, sur les 30 invités présents, seuls 5 venaient du côté d'Ethan. Tous des amis, pas de famille. J'ai dû me battre pour réduire ma liste d'invités alors qu'il semblait avoir du mal à trouver 5 personnes. Mais il n'y a rien de honteux à ne vouloir que 5 personnes à son mariage. Franchement, ça ne m'aurait pas dérangé que ma mère n'invite pas sa cousine Debbie, toujours si amère, ou le demi-frère perpétuellement ivre de mon père, Bob. J'éteins la lumière et je m'installe sur le côté droit du lit, celui où je dors dans notre lit à la maison. C'est bizarre, cette façon que nous avons de choisir chacun un côté du lit pour dormir et de ne pouvoir ni l'un ni l'autre dormir de l'autre. Ça ne fait qu'un peu plus d'un an que nous sommes ensemble, mais ces habitudes sont déjà bien ancrées. Sitôt qu'Ethan enroule son corps autour du mien, sa respiration se fait plus profonde. Je ne sais pas comment il peut être si détendu. D'habitude, je me sens en sécurité et au chaud, enveloppée de ses bras. Mais pas là. Je n'éprouve aucun sentiment de sécurité.